Suivez Priorité Santé avec Sunwa Assurance et soyez couverts en cas de maladie, de perte ou de vol de bagages durant vos voyages.
Priorité Santé, Caroline Paré.
Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui dans Priorité Santé, nous allons parler du pouvoir addictif des drogues. Au-delà des risques pour la santé, nous allons essayer de comprendre comment s'installe la dépendance à certaines substances, la cocaïne, l'héroïne, le cannabis, mais aussi l'alcool et le tabac. Des ressorts de l'addiction qui sont à la fois chimiques, mais aussi relèvent des conditions sociales, génétiques, environnementales ou psychologiques. Des conditions qui permettent d'ailleurs de comprendre pourquoi, quand on parle de la prise en charge des addictions, cette dimension multidisciplinaire a toute sa place. Et avec nos invités, nous aborderons aussi la question des produits de substitution dans le cadre d'un traitement médical. Évoquer aussi les vulnérabilités particulières pour les usagers. Si vous avez des questions, si vous souhaitez témoigner, vous pouvez nous appeler sur WhatsApp. Notre numéro, le 33 7 61 18 46 41. Pour quelle drogue existe-t-il des substituts? Qu'est-ce qu'un syndrome de sevrage? Avec nous en studio, docteur Nicolas Bonnet, bonjour.
Bonjour Caroline Paré.
Vous êtes pharmacien spécialisé en santé publique et addictologie, directeur du réseau des établissements de santé pour la prévention des addictions. Vous êtes aussi, docteur Bonnet, responsable de la consultation jeunes consommateurs du service de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris. On va retrouver tout à l'heure en ligne de la Côte d'Ivoire le professeur Samuel Traoré. Il est chef du service d'addictologie et d'hygiène mentale à l'Institut national de santé publique d'Abidjan. Il est aussi le président de la Société ivoirienne de psychiatrie. Et puis reportage au pluriel à suivre, celui de Raphaël Constant au sein d'un groupe de parole de personnes dépendantes et à Conakry, Tanguy Billan pour comprendre le phénomène du kouch en Afrique de l'Ouest, une drogue de synthèse bon marché, à la fois très addictive et très nocive.
Priorité santé, parce que la santé est la priorité de tout le monde sur RFI.
Parler des addictions, parler des substances, sans limiter d'ailleurs la compréhension de l'addiction à la seule substance. Docteur Bonnet, puisque d'emblée, il faut expliquer que la dépendance, c'est pas simplement une histoire de chimie, c'est un ensemble très complexe.
La dépendance, effectivement, c'est toujours l'interaction entre l'individu qui va prendre un produit dans un environnement bien particulier. Donc on dit que c'est vraiment l'interaction toujours entre ces trois dimensions individu-environnement-produit. Alors évidemment, on a des facteurs de risque individuels en tant qu'individu de pouvoir être plus ou moins rapidement dépendant, de pouvoir plus ou moins aimer aussi les effets des drogues que l'on prend. Ça, ces spécificités, elles sont transmises souvent de façon un peu génétique. Alors on ne transmet pas la dépendance, mais on transmet par exemple la tolérance au produit, donc cette capacité de prendre beaucoup de produits sans en ressentir les effets négatifs. On transmet également de façon génétique, effectivement, la capacité de pouvoir apprécier les effets des produits ou s'en servir comme d'un effet autothérapeutique. Et puis, alors aussi, on crée d'un point de vue sociétal aussi les conditions mêmes qui sont propices à la consommation. Ça, c'est l'effet environnemental, avec effectivement aussi des endroits où il est plus facile de boire de l'alcool, de fumer du tabac ou de prendre d'autres produits. Ça, c'est la deuxième composante. Et puis enfin, sur la partie produit, et ça, toujours pareil, qui vient engager du coup le niveau de dépendance. Il y a des drogues qui amènent à des dépendances très fortes, très rapidement. Ça dépend principalement de leur capacité à pouvoir arriver sur le cerveau le plus vite possible, donc sur la cible, l'organe cible de l'effet des drogues. La drogue qui arrive sur le cerveau le plus vite possible et le plus fortement, c'est le tabac fumé, et j'entends bien fumé, donc c'est cette voie pulmonaire, d'absorber les drogues par voie pulmonaire, là effectivement, ça amène à une dépendance très rapidement. Et puis il y a des drogues qui amènent à des dépendances un peu moins vite ou plus lentement, comme par exemple les drogues qu'on va consommer par voie orale et pour lesquelles les dépendances vont mettre un certain nombre de temps, voire d'années, avant d'amener à une situation de dépendance.
Quand on parle des drogues, il y a beaucoup d'idées reçues. Par exemple, quand vous dites c'est le tabac qui rend le plus dépendant le plus vite, moi, si je réfléchis, j'écoute les médias, je dis j'ai plutôt l'impression que c'est plutôt quelque chose comme le crack qui rend le plus dépendant. Alors qu'est-ce que vous me répondez ?
D'abord, j'ai envie de vous dire, de préciser qu'il n'y a aucune drogue qui amène à une dépendance immédiate. C'est pas parce qu'on prend une drogue une fois dans sa vie qu'on va devenir dépendant, et ça, c'est vrai pour tous les produits et pour toutes les personnes dans tous les environnements. Ce qu'on sait juste, c'est qu'il y a des produits, par contre, quand on va répéter les prises, ils vont nous amener ou ils vont amener les situations de dépendance plus ou moins rapidement. Donc ça, c'est fonction notamment, on disait, de la tolérance, la capacité du produit à arriver rapidement sur le cerveau, et puis également de la façon dont les produits aussi interagissent avec le cerveau. Là-dessus, la nicotine fumée, en tout cas absorbée par voie pulmonaire, est la drogue qui amène vraiment la dépendance la plus rapide. Derrière, on va retrouver les produits opiacés, tels que l'héroïne, par exemple, ou les fentanyl, qui amènent du coup à des dépendances rapides. Et en troisième position, on va retrouver l'alcool, qui est la troisième drogue, avec ce qu'on appelle le potentiel addictogène le plus élevé, le plus important. Tout ça à nombre de consommateurs équivalents. Et derrière l'alcool, mais bien plus loin derrière, on va retrouver la cocaïne sous sa forme basique, qu'on appelle le crack.
Alors, le vocabulaire, le choix des mots quand on parle de drogue, ça varie bien sûr au fil des années, des générations. Toxicomanie, dépendance, addiction, avec une dimension de stigmatisation hein, de la part de certains commentateurs. Il y a le discours répressif qui est très à la mode en ce moment, très médiatisé. Par exemple, la bonne vieille distinction qu'on a longtemps entendue entre drogue dure et drogue douce. Qu'est-ce que ça a comme sens ?
Ce qui est intéressant, c'est de se rappeler qu'une drogue, c'est juste un produit qui va avoir une action sur le cerveau. On dit que c'est un produit qui vient modifier l'état de conscience. Il y a une drogue qu'on consomme tous beaucoup, en tout cas qui est très connue partout dans le monde, c'est la caféine, le café, qui est quand même une drogue extrêmement importante, extrêmement diffusée, qui a vécu aussi d'ailleurs ces périodes de prohibition, qui a vécu aussi ces périodes d'exclusion ou d'enfermement des consommateurs, et qui est aujourd'hui très largement diffusée. Tout le monde sait, en tout cas tous les consommateurs de café savent que c'est un psychostimulant, savent qu'il y a aussi une dépendance, et que quand on n'en a pas, on est un petit peu voilà, peut-être de mauvaise humeur. Et comme c'est une drogue, la caféine, ben, j'ai envie de vous dire que ça fait de tous les consommateurs de café dédrogués. Et en disant ça, du coup, ça nous ramène effectivement, ça nous replace au sujet au centre de la table en disant que finalement, on partage sans doute, pour beaucoup d'entre nous, des consommations de drogue. Est-ce qu'elles sont douces? Est-ce qu'elles sont dures? En tout cas, ce sont juste des drogues. Est-ce que cette classification drogue douce ou drogue dure a un sens? Probablement pas beaucoup. Ce qui est important, c'est de pouvoir ensuite derrière qualifier les types d'usages qu'on en fait. Si la caféine, pour reprendre cet exemple-là, vous l'injectez par voie intraveineuse, vous en ferez un usage très dur et probablement très toxique. Si vous continuez à l'absorber uniquement dans votre tasse de café tous les matins, ça sera pour le coup un usage très doux, sans conséquence sur votre vie ni votre santé.
Le choix du vocabulaire, encore une fois, docteur Nicolas Bonnet. Avant, on parlait de cure de désintox hein, dans le vocabulaire courant, surtout quand on était parisien. Cure de désintoxication, sevrage. Est-ce que ça a encore cours en consultation d'addictologie ou c'est plus non plus d'actualité?
On va dorénavant davantage parler d'hospitalisation en addictologie, qui va prendre différents types d'ailleurs de visages, avec en même temps l'hospitalisation qu'on appelle à temps complet, où vous êtes en temps sur un lit d'hôpital avec différents types d'activités, et puis aussi à l'hôpital de jour, donc c'est un autre type d'hospitalisation où vous rentrez tous les soirs chez vous, et puis également tout le système ambulatoire aussi avec toutes les consultations. Ce qui est important, c'est que de sortir du système de cure, maintenant l'hospitalisation elle reste volontaire systématiquement, donc on arrête d'obliger les gens d'arrêter leur consommation ou de se sevrer brutalement. On leur propose des alternatives, on leur propose des plans également de réduction des consommations, comme par exemple pour l'alcool maintenant. Le seul objectif de l'abstinence n'est plus unique, on arrête uniquement d'imposer l'abstinence, mais on amène du coup les gens à modifier également leur consommation à la baisse pour en limiter les complications et les conséquences. En tout cas, on a essayé de créer un panel d'offres qui permet du coup au plus grand nombre de consommateurs de vivre le plus longtemps possible dans les meilleures conditions.
Il y a le comportement, il y a les produits. Pourquoi précisément, docteur Bonnet, il y a des produits de substitution qui existent pour certaines drogues et pas pour d'autres?
Les traitements qu'on appelle de substitution pour certains produits, certaines drogues, comme par exemple la nicotine ou comme par exemple les médicaments ou les produits opiacés comme l'héroïne, sont d'une grande efficacité et ont permis réellement d'arrêter ou de faire arrêter les consommations chez de très nombreux consommateurs, et c'est en cela vraiment des vrais succès pharmacologiques. Néanmoins, ces deux traitements, ils se basent sur le fait que la nicotine ou les opioïdes, ils ont des cibles sur le cerveau, des récepteurs qui sont assez singuliers, assez particuliers et assez uniques. Donc ça a été assez facile de créer des produits qui viennent mimer les effets, en tout cas s'accrocher sur les mêmes récepteurs et empêcher du coup la demande ou l'envie de consommer de nouveau du tabac ou de l'héroïne. C'est beaucoup plus compliqué pour de très nombreuses drogues qui ont des sites d'action multiples sur le cerveau et pour lesquelles il faudrait inventer du coup des médicaments qui soient en même temps, enfin qui agissent sur différents types de récepteurs. Pour l'instant, on n'en est pas là, et les pistes plutôt qu'on prend aujourd'hui en termes de traitement, c'est beaucoup plus des pistes en termes de rétablissement, donc d'accompagner les gens dans leur milieu de vie et de faire en sorte du coup qu'ils retrouvent du coup des capacités en santé, enfin une notion d'empowerment, de retrouver les clés de leur santé pour agir positivement sur leurs déterminants de santé et sur leur comportement de santé, plutôt que trouver uniquement une réponse pharmacologique.
Alors l'accompagnement, l'écoute, tout de suite, une illustration. Et ce reportage de Raphaël Constant au sein du groupe de parole du Centre de soins de prévention d'accompagnement en addictologie d'Aubervilliers. Chaque mardi, David Garraud, patient expert en addictologie, anime cet espace d'échange ouvert à tous au Centre municipal de santé. 10 personnes sont présentes ce jour-là. Pour des raisons de confidentialité, bien sûr, les témoignages sont anonymes.
Bonjour tout le monde. Plutôt addict à l'alcool et... L'addiction, en tout cas moi, pour l'alcool, c'est un peu aussi se cacher et ne pas affronter des choses qui sont trop difficiles. On a peur d'avoir trop mal, en fait.
Moi, j'ai 17 ans de restauration derrière moi. Et du coup, je suis tombé dans l'alcool. Et aujourd'hui, j'essaie de sortir la tête de l'eau, de refaire quelque chose qui a du sens.
Je suis addict à l'alcool. Là, ça fait 3 semaines que je suis sorti d'une cure. Un peu plus de 2 mois que je n'ai pas touché à l'alcool. Et aujourd'hui, je me sens bien, ça va. Merci.
30 ans de consommation, 25 ans d'alcoolisme, 18 semaines d'hospitalisation en tout et pour tout.
J'ai 27 ans, ça fait 5 ans que je suis suivi ici à peu près, pour alcoolisme principalement à la base, puis cocaïne et maintenant benzodiazépine. Et ça fait 3 jours que je pleure tous les soirs, je ne sais pas pourquoi. Comme si en fait j'allais mieux, mais dans ma tête il y a un truc qui ne veut pas que j'aille mieux et du coup ça me fait pleurer.
Moi j'ai 40 ans de cannabis et d'alcool, d'addiction, et depuis 2019 je suis abstinent. Bah, là au jour d'aujourd'hui j'ai une nouvelle petite addiction, c'est le jeu vidéo.
Ce soir, je vais vous proposer qu'on fasse notre bilan, faire son bilan à vélo. Donc je vais chacun vous donner une feuille.
Et chaque élément du vélo correspond à, par exemple, le guidon, c'est ce qui me guide, le cadre, c'est ce qui me cadre et me rassure, la selle, c'est ce qui me porte ou me soutient, les pneus, c'est ce qui me gonfle, et les freins, c'est ce qui me freine. L'idée, c'est de pouvoir faire élaborer les patients sur comment je réfléchis à ce qui me freine dans ma vie, à ce qui me gonfle, ce que je porte, et qui sont trop lourds et qui peuvent ralentir. Donc, c'est simplement un support de médiation qui permet d'ouvrir un dialogue dans un groupe.
Il y a plein de trucs qui m'ont gonflé dans ces derniers temps. Les amis, les proches, la famille, qui m'ont donné plein d'énergie, mais qui avaient beaucoup, beaucoup d'attentes. J'ai du mal à composer avec ce que les gens attendent de toi. Quand on te gonfle, plein de bonnes intentions, et que quand toi, tu te sens un peu plus à plat, et ben voilà, il y a un problème avec la pompe à vélo, quoi. Voilà. C'est un peu ça, pour rebondir sur cette histoire de ce qui me gonfle.
Beaucoup de personnes ne comprennent pas le mal-être. Moi, je sais que j'ai perdu ma femme, hein, ma fille, mon logement. Reconstruire toute une vie tout en essayant de rester sobre et droit, c'est compliqué. C'est quelque chose que tu as du mal à contrôler. Et c'est vrai que c'est très dur à vivre.
Ils ne veulent pas comprendre. Pour eux, c'est, il suffit de la volonté ou autre. Ils n'arrivent pas à comprendre que c'est une maladie, vraiment. Et que ça, on leur a avis. C'est pas facile, parce qu'encore aujourd'hui, je suis confronté à un conjoint qui ne comprend rien. Mais c'est vrai que la première personne sur qui on doit compter, c'est nous d'abord.
Moi, il y a 2 ans, quand j'ai su que j'allais arrêter de travailler, je disais, je vais arrêter tout ça, parce qu'ils commencent tous à me gonfler. Et je vais partir dans mon Pays Basque, là-bas. Puis je vais aller vivre dans une grotte, là-bas. Mais j'aurais quand même mes bagages avec moi, là-bas. Et le fait d'être venu déjà ici, ça me permet de poser une partie de mes bagages et de les ouvrir et de me débarrasser de certains qui sont un peu lourds, on va dire. Et que moi, certaines des choses que je sors de ma valise, ça peut aussi faire du bien à d'autres. Et c'est ça qui est vachement important et c'est pour ça que je continuerai à venir ici sans aucun problème.
Voilà. C'est une jolie image. Hein. Parfois, de pouvoir dire ben, je me déleste un petit peu de ça, ça ne veut pas dire que ça n'est plus, mais en tout cas, c'est moins lourd à porter. C'est ça. Qu'est-ce qui peut te freiner aujourd'hui ?
La colère, la rage qui est à l'intérieur, qui me fait peur. Le monstre que je peux devenir. La pression que je me mets qui est juste énorme. J'arrive pas à la lâcher. J'en ai marre. Ça fait 6 ans que je suis addict. Je veux que ça aille plus vite. Je veux paniquer mon avenir à cause de substances de merde. À cause de putain de traumas de toute petite enfance. Je suis bloquée. J'ai peur de les affronter. C'est tout ça qui me freine.
Bien entendu qu'il y a les traumas. Et les traumas, c'est un peu comme ces putains de bagages là, qui me pèsent et comme un boulet. Et tu les as identifiés. Et ça, c'est phénoménal. Et on ne peut pas, en quelques mois, régler quelque chose qui vient de la petite enfance. Ce vide qu'on essaie de combler, tout ce que ce soit à coup de jeux vidéo, que ce soit à coup d'alcool, de cocaïne, eh bien, plutôt que de le remplir, il faut que je mette le nez dedans. Bien entendu que c'est vertigineux et que ça fait flipper, mais quand on travaille sur ces consommations, eh bien, ça remonte à la surface inexorablement. Ce qui est horrible, et pour l'avoir vécu aussi, moi je fais partie du même groupe que vous, hein, c'est de se punir de quelque chose dont on n'est pas responsable. Tu peux consommer des kilos de cocaïne, ça n'enlèvera rien. Mais par contre, ce qui peut régler le trauma lié à cette maladie, c'est justement la sobriété et de pouvoir travailler dessus et faire la paix avec ça. Et c'est important de récupérer du pouvoir d'agir et parfois se dire, je vais en chier un peu, mais je sais pourquoi j'en chie. Et bien dans l'abstinence, dans ce que vous construisez, dans le soin, et bien parfois on va en chier. Mais c'est beaucoup moins chiant que d'avoir sa gueule au-dessus des toilettes parce que ce premier verre, quand je me réveille, je le dégueule, quoi. Mais vraiment, je pense qu'il faut absolument se considérer comme son meilleur ami.
Merci et je vous souhaite tous plein de courage pour toutes ces dures addictions que nous avons à gérer.
La souffrance de l'addiction palpable dans ce reportage de Raphaël Constant. On vous retrouve, docteur Nicolas Bonnet. Est-ce que, d'une certaine manière, la substance va déterminer la prise en charge? On a compris, hein, c'est pas que des médicaments, c'est aussi de la parole, ou pas forcément?
Les personnes qui consomment des drogues ont besoin de prises en charge qui reprennent en fait les différentes composantes de l'addiction. Donc si bien un travail sur l'environnement, sur la place sociale du produit, dans son environnement proche, familial, etc., professionnel. Ça doit donc du coup là-dessus, on entend qu'il faut des travailleurs sociaux, il faut des éducateurs spécialisés, des assistants sociaux, etc. Il faut une place également, un travail sur le produit en lui-même. Donc si c'est de la nicotine, de l'alcool, de l'héroïne, savoir s'il y a un traitement, pas de traitement, l'acide, les cibles pharmaceutiques, qu'est-ce qu'on peut aider, comment on peut aider les gens, du coup, à ne pas ressentir les signes du manque. Et puis, évidemment, il y a une place importante, du coup, qui doit donner à la parole, qui doit être, du coup, très largement, du coup, valorisée comme étant un traitement thérapeutique extrêmement puissant des pratiques addictives, qui permet aux gens, effectivement, de se réaliser, qui permet aux gens aussi de se réaliser, hein, de se réapproprier aussi leur image. On peut parler également de la photographie, on peut parler également de la socio-esthétisme, etc., différentes spécialités qui permettent vraiment aux gens réellement de récupérer leur corps, leur âme, et de pouvoir, du coup, regagner une vie sans produit. Un dernier élément par rapport à ça aussi, c'est de se rappeler qu'en fait, dans les situations de consommation, il y a ce qu'on appelle des stratégies d'environnement enrichies, maintenant de plus en plus importantes, où on dit en fait que finalement, tant qu'on n'arrivera pas à changer l'environnement et à recréer des conditions favorables du coup à la vie des personnes dans les meilleures conditions possibles, environnement enrichi, ça veut dire voilà, des liens sociaux, ça veut dire des liens apaisés, ça veut dire également favoriser les rencontres entre personnes de sexe différent, de même sexe, etc., avoir également accès à différents types de loisirs. Tant qu'on ne crée pas ces environnements-là, on continue à faire peser sur les gens, à faire des contraintes extrêmement fortes qui sont très souvent incitatrices à la consommation.
Il y a une question du regard, hein, dans ce qu'on entend aussi, qui est très importante. On est très très loin du discours répressif, stigmatisant, qu'on entend aujourd'hui quand on allume la radio, la télé, sur les réseaux sociaux, de la part de certains responsables. Comment est-ce qu'on peut guérir de l'addiction quand on est montré du doigt sans cesse?
Le traitement social des personnes dépendantes, il est extrêmement important effectivement pour que les gens puissent du coup regagner confiance en elles et puis sortir de leur consommation sans
et sortir de la honte.
Sans avoir à subir effectivement le regard malveillant des autres et la honte sociale ou la réprobation sociale. Ce qu'en plus, dans les parcours de consommation, et d'ailleurs on l'a bien entendu dans le reportage, c'est très souvent 20 ans, 30 ans de consommation avant que les gens rentrent dans les soins. Donc en fait, c'est 20 ans ou 30 ans où on a partagé sa consommation et particulièrement l'alcool avec beaucoup de personnes dans sa vie. Et puis tout d'un coup, du jour au lendemain, les gens avec qui on a partagé ses consommations, vous bannissent en fait du groupe, vous mettent au banc de la société et puis vous considèrent comme une personne du coup défaillante, incompétente, parce que tout d'un coup, vous, pour différentes raisons, vous êtes devenu dépendant à ce produit-là. Donc ces couples de parole, ces différentes stratégies de prise en charge sont extrêmement importantes. Et vous avez raison, aujourd'hui néanmoins, elles s'affrontent de plus en plus à des politiques, ou en tout cas des discours politiques, qui continuent à stigmatiser les consommateurs, qui continuent à retirer les droits civiques et sociaux aux consommateurs, et donc qui continuent à faire de ces personnes-là des personnes qui sont au banc de la société.
On va poursuivre notre échange, docteur Bonnet, en donnant la parole aux auditeurs. On va aller à Conakry, Abidjan, juste après ce titre de Carol G, Tous Graffitas sur RFI. Hey, te pienso cada una de mis noches. Solo quiero que el tiempo pase.
ti vuelvo a creer.
Priorité Santé sur RFI, on parle aujourd'hui du pouvoir addictif des drogues, des stratégies de l'accompagnement pour se défaire de la dépendance, toujours avec le docteur Nicolas Bonnet, pharmacien spécialisé en santé publique et addictologie. Et on part tout de suite pour la Côte d'Ivoire, pour la ville de Korogo. On retrouve sur place Antoine. Antoine, bonjour.
Bonjour Caroline, bonjour docteur.
Alors Antoine, vous nous avez joué pour parler de la situation de votre frère, qui est plus jeune que vous. Expliquez-nous s'il vous plaît, qu'est-ce qui se passe pour lui?
Ok, ce qui se passe, c'est que depuis 2015, il menait ses activités agricoles tranquillement. Et il s'est mis ensemble avec deux autres camarades. Et ils partaient au champ, à la suite de ça, ils ont commencé tous à prendre la drogue. Et c'était sûr de tout le monde. Et en fin de compte, n'ayant pas les mêmes organismes, lui, il est tombé vraiment, il est tombé malade. Du coup, et ça l'a déréglé, ses plants de cacao dans l'Acadie, il a tout coupé. Et vraiment, il faisait par là, voyez, tout le monde, il détruisait tout presque à son passage. Moi-même, je construisais, il rentrait dans la maison par effraction, il cassait tout. Et par la suite, il a quitté le village, il allait s'installer dans un autre village. Il refuse tout contact avec nous. Et il continue toujours à prendre la drogue.
Il refuse aujourd'hui tout contact avec vous, Antoine. Est-ce qu'il y a eu des disputes? Est-ce qu'il y a eu des difficultés dans la relation familiale pour qu'il parte comme ça? Ou c'est d'une certaine manière parce qu'il avait honte de ce qu'il avait fait? Il n'avait plus envie de se présenter devant vous?
Ah, il n'a plus envie de se présenter devant nous parce qu'en fait, moi, je suis en ville et lui, là, au village, il a certains parents. Voilà, certains frères et sœurs.
Et aujourd'hui, il n'y a plus du tout de contact avec lui? C'est coupé ou il y a encore moyen de lui parler ou de lui envoyer des textos?
À mon niveau, il n'y a plus de contact parce que là où il était, même cette année, il y a 3-6 mois de cela, j'ai appelé. Lorsqu'on lui donne le téléphone, on lui dit c'est ton frère qui a appelé, il refuse carrément tout contact.
Vous êtes le grand frère, donc vous êtes l'autorité parentale?
Oui.
Donc c'est par rapport au respect qu'il vous doit, il a du mal à entrer en contact avec vous, c'est ça?
Il refuse carrément, il refuse carrément tout contact.
Et voilà, vous auriez envie de lui parler, de reprendre contact?
Oui. Moi, mon objectif, c'est comment le faire ramener chez nous au village et en plus de ça, et trouver les voies et moyens pour le traiter. Parce qu'avant que je sois, par exemple, si on m'a indiqué un hôpital, un centre de soins, même si je dois l'emmener là-bas, il faudrait qu'il vienne d'abord, qu'il se rapproche de moi. Parce qu'en fait, c'est ça mon problème.
C'est ça votre problème. Voilà. Et ce qui est aussi très important dans ce que vous avez dit tout à l'heure, Antoine, vous avez dit « mon frère est malade ». Vous avez mis le mot dessus, c'est important. Tout à l'heure, dans quelques minutes, on va avoir un médecin justement qui est addictologue à Abidjan. Ben, je pense qu'il va pouvoir y avoir un lien fait avec lui, parce que justement, votre frère, il y a un service d'addictologie, ça veut dire qu'il peut y avoir tout à fait une prise en charge, Antoine. Ça, c'est quelque chose de très important à entendre. Et c'est vrai que quand la famille, comme ça, elle est aidante, elle peut aussi aider la personne, à condition qu'elle le veuille bien, à aller vers de l'aide pour justement se défaire de cette dépendance, docteur Bonnet.
Les drogues ont vraiment des conséquences sociales importantes et les situations de dépendance vraiment enfin, amènent voilà, des conséquences en termes de rupture familiale, comme on le voit, là, le déchirure, etc., qui sont en plus très souvent, qui laissent les gens dans l'incompréhension. C'est-à-dire que de part et d'autre, on ne sait pas pourquoi on ne se voit plus, on ne sait pas pourquoi on ne se parle plus. Certes, il y a eu les consommations, et puis après, il y a un tabou qui s'inscrit dans la relation. Il y a ce que souvent on nomme le déni, qui est plutôt de la négation aussi des consommations, ou des conséquences même peut-être de ces consommations. Et une façon de se protéger de ça, c'est de fuir aussi, c'est de fuir cette relation-là. Et peut-être qu'aussi, du coup, votre frère Antoine voilà, a fui aussi pour lui aussi se protéger et vous protéger en même temps voilà, de ses propres consommations. Le temps pour lui de se reconstruire, le temps pour lui peut-être de trouver des ressources, de trouver des soins, comme vous l'avez précisé, Caroline Paré, à l'instant, c'est-à-dire de trouver aussi un service d'addictologie ou une structure de prise en charge qui lui permettrait, du coup, de reprendre en main sa vie et de revenir, du coup, devant vous, Antoine, avec, voilà, dans les meilleures conditions possibles pour, effectivement, réintégrer la famille sans être au sein de cette famille-là, du coup, quelqu'un qui pourrait du coup venir perturber les relations sociales. Un autre point aussi que je rajoute, c'est très souvent aussi ces fractures familiales, elles se basent aussi sur des aspects financiers. Il faut se rappeler que les drogues coûtent cher aussi aux consommateurs. Quand on parle là de cocaïne, de cannabis ou d'autres drogues, c'est un budget conséquent. Si vous êtes consommateur dépendant, c'est plusieurs, en tout cas ici, plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines d'euros par jour à trouver pour pouvoir consommer correctement vos drogues et ne pas ressentir les signes de manque. Alors évidemment, on n'a pas cette somme-là tous les jours. Donc du coup, il faut trouver d'autres façons d'avoir cet argent ou moins consommer. Ou du coup, ça crée ça, du coup, des phénomènes psychiques, de violence notamment importantes. Mais le coût, en tout cas, des drogues est un élément également très important.
Très important. En tout cas, merci infiniment, Antoine, pour votre témoignage. On va retrouver maintenant au Burkina Faso, à Ati, qui est dans la ville de Ouégouya. Bonjour Ati.
Bonjour Caroline, bonjour docteur.
Alors, en préparant l'émission Ati, vous avez expliqué que vous aviez une dépendance à un médicament. De quel médicament s'agit-il, s'il vous plaît ?
Iliféralgan codéiné.
Ça dure depuis combien de temps ? Vous prenez cette antidouleur depuis combien de temps ?
J'ai pris ça il y a quelques années, mais ces trois dernières années, c'est devenu régulier. Quotidiennement, je prends.
Vous prenez combien de cachets sans indiscrétion par jour ?
J'étais arrivée à 9, mais maintenant je suis à 4.
À 4. Ça veut dire que vous avez quand même essayé de réduire, hein, Ati ?
Oui.
Oui. Ça vous pose des problèmes, cette consommation ? Il y a eu des conséquences pour votre santé ?
Oui, oui.
Quelles conséquences, s'il vous plaît ?
J'ai des constipations, je m'alimente peu et puis je suis distante. Je vis dans mon monde.
Ouais, ouais.
Si ce n'est pas les relations professionnelles, bon, j'échange peu avec les gens. Je suis.
Ça
parce que quand je prends, je me sens bien, je suis en paix envers moi, je suis tranquille.
Oui, ça vous apaise, mais en même temps, ça éloigne les autres. Est-ce que vous en avez parlé à votre médecin ?
Bon, une fois.
Et qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui s'est passé ?
Il m'a dit de diminuer la dose au fil du temps. Mais je n'ai pas pu avoir accès au service de l'addictologie. Parce que c'était le jour où ils avaient dit les jeudis, donc je suis plus répartie.
Pourquoi ? Parce que vous avez eu l'initiative d'y aller une fois et après, la deuxième fois, il y avait moins de courage pour y retourner, c'est ça ? Ouais. On écoute vos questions, Ati, je vous en prie.
Ma question, c'est les conséquences, parce qu'il y a déjà pris beaucoup de comprimés. C'est les conséquences maintenant à long terme, si je n'arrive pas à arrêter ou ce que j'ai déjà pris. Et puis aussi, surtout, je veux des solutions pour arrêter définitivement.
Vous avez envie d'arrêter, Ati, quand on vous entend, c'est ce qu'on perçoit, vous avez vraiment envie d'arrêter ?
Vraiment, j'ai envie
d'arrêter. Ouais. Docteur Nicolas Bonnet, donc cette difficulté, elle est bien réelle, on l'entend, c'est pas comme pensent certains, baisse un jour, tu retires un cachet, un autre jour, non, ça se passe pas comme ça du tout. Cet antidouleur, il est très facile d'accès, par contre, c'est très compliqué d'arrêter.
La priorité, d'abord, c'est prendre en charge la douleur. Il faut bien se rappeler qu'aussi, les gens qui sont douloureux, il faut surtout les soulager de leur douleur. Et un peu, des fois, trop rapidement aussi, on va directement sur le côté enfin, opiacé, dépendance, etc., en oubliant qu'il faut absolument que les gens n'aient plus mal. Ça, c'est votre priorité. Ati également, hein, c'est vraiment de faire en sorte que vous soyez bien et sans douleur. Ensuite, vraiment, c'est à valoriser, et ça, c'est tout à votre honneur, la diminution du nombre de comprimés, d'être passé à 9 comprimés jusqu'à 2 ou 4 par jour avec des jours d'abstinence, comme vous l'avez dit dans votre témoignage. Ça, c'est vraiment aussi remarquable de votre part et ça montre à quel point vous voulez absolument réduire du coup vos consommations. Sur les fers à long codéiné, il y a deux choses. Il y a de la codéine à l'intérieur et comme vous le savez, il y a du paracétamol, hein, ce principe actif aussi qu'on retrouve voilà, dans différents produits qui est également un antalgique. Pour la codéine, 2 ou 4 comprimés par jour, j'ai envie de vous dire que c'est une dépendance qui est certes un peu psychologique, qui est peu finalement physique et qui probablement en tout cas sera pour vous assez voilà, simple maintenant dans un avenir proche à pouvoir avancer, réduire les consommations et puis arrêter votre consommation. Ça reste une consommation qui, on vous rassure aujourd'hui, qui reste minime et tant mieux. Par contre, il faut être vigilant sur la place du paracétamol dans les fers à gants qui lui par contre s'accumule dans le corps et vous parliez d'effets à long terme. Ce paracétamol il s'accumule, il peut avoir une action toxique sur le foie et amener du coup à des hépatites ou en tout cas un foie qui marche beaucoup moins bien. Et là-dessus, par contre, il faut vraiment être très vigilant, Ati, et du coup limiter un maximum ses consommations, surtout pour protéger votre foie.
Ati, vous êtes rendu dans le service d'addictologie. Est-ce que vous avez aujourd'hui en vous la force pour y retourner? Parce qu'on entend bien dans vos explications que le chemin, vous avez bien avancé là-dessus. Est-ce que vous auriez la possibilité d'y retourner prochainement?
Oui, je vais y retourner.
Vous y retournez? Bon. On vous souhaite une très très bonne journée. Très très bon courage à vous en tout cas. Ça faisait très plaisir d'échanger avec vous. On va maintenant donner la parole au président de la Société de psychiatrie de Côte d'Ivoire.
RFI à Abidjan.
Professeur Samuel Traoré, bonjour.
Bonjour Caroline.
Addictologue, chef du service d'addictologie d'hygiène mentale de l'Institut national de santé publique d'Abidjan. Aujourd'hui, chez vous, en Côte d'Ivoire, est-ce qu'on peut parler de tendances particulièrement préoccupantes en termes d'addiction et de prise de drogue, notamment chez les jeunes?
Oui, déjà bonjour au docteur Bonnet, à nos auditeurs et merci à RFI pour l'opportunité. Alors, sur Abidjan, en Côte d'Ivoire, on peut parler de tendance, effectivement, parce qu'il y a eu plusieurs études qui ont été menées, en 2016 notamment, qui montraient déjà des prévalences élevées de consommation de cannabis, autour de 73,60%. En 2023, récemment, c'est les mêmes chiffres dans le milieu carcéral, avec 81%. Et de 2017 à 2023, une étude sur les pharmacopsychoses montre aussi que dans 90% des cas, on a des consommations de cannabis, de benzodiazépine et de tramadol.
Justement, le tramadol, voilà. On entend beaucoup de témoignages hein, sur la consommation de cette antidouleur. J'imagine que c'est aussi prisé sur la place à Abidjan?
Oui, c'est une drogue, une substance qui est très prisée. Hein, dans les mêmes études, hein, on part de 31% à pratiquement 27% selon les études. Et donc, c'est une question qui devient une préoccupation de santé publique. Parce qu'en Côte d'Ivoire, le tramadol, il est utilisé à des doses qui ne sont pas recommandées. Généralement, dans le marché noir, vous allez en trouver à des dosages de 250 mg et à certains usagers qui vont jusqu'à 6 comprimés par jour.
Donc c'est très important. Et on voit aussi qu'il y a des nouvelles tendances. Justement, restez avec nous, professeur Traoré. On va faire un détour par Conakry à la rencontre de l'équipe du SAGED. C'est une association qui prend en charge des personnes en situation de dépendance. Puisqu'après la Sierra Leone, c'est au tour d'autres pays d'Afrique de l'Ouest, en particulier la Guinée, sa capitale Conakry, de connaître les méfaits d'une drogue de synthèse, la couche, une substance aussi addictive que dangereuse. Reportage de notre correspondant sur place, que l'on retrouve tout de suite.
Le SAGED, situé dans le quartier de Dabompa à Conakry, a soigné des centaines d'usagers de tout type de drogue depuis sa création en 2019. Parmi eux, Mamadou, la vingtaine, t-shirt rouge. Il a commencé par fumer du cannabis avant de passer aux couches à 16 ans. Il est immédiatement devenu addict. Il était alors au lycée en Sierra Leone et n'a finalement pas obtenu son bac. Le couche le poussait à traîner avec d'autres fumeurs jusqu'à se perdre totalement.
Quand j'ai fumé la couche, j'ai même oublié ma famille, Quand je sors le matin, je rentre même pas à la maison. Je reste avec les gangs toute la journée. Je fumais, je faisais des choses quand même. Ça me fait oublier de la famille. Je mangeais pas. Quand tu fumes la couche, tu manges pas bien quand même. Tu n'as plus l'appétit.
Même s'il a fumé du couche pendant 7 ans, il n'en connaît presque rien, comme la plupart des consommateurs.
Je ne sais même pas comment elle est fabriquée, mais il y a beaucoup de types de fabrication, quoi. Il y a les types de fabrication. Quand tu fumes, tu dors. Je fumais beaucoup quand même, mais je ne sais rien qu'est-ce qu'il y avait dedans. Quand je fumais, j'étais pas en bonne santé quand même. Hein.
Soutenu par sa famille, il a fini par prendre conscience de la gravité de son addiction, des effets terribles qu'avait le couche sur sa santé et a suivi un parcours de soins au Sagette. Il a pu sortir de cette dépendance et reprendre un peu de poids. Aujourd'hui, il va mieux et participe à des groupes de parole avec d'autres personnes sous traitement. Mais tous les consommateurs n'ont pas sa chance, loin de là. Le couche peut en effet provoquer des dégâts irréversibles, explique Dr Kumbassa, psychiatre et présidente du Sagette.
Ça peut entraîner des pathologies psychiatriques aiguës comme chroniques. Surtout si des gens consomment à bas âge. Ils peuvent entraîner d'abord des pathologies aiguës comme la bouffée délirante. Ils vont délirer. Et à la longue, maintenant, ça rentre dans les pathologies chroniques. Mais les plus jeunes, c'est dans la schizophrénie paranoïde que ça entraîne. La schizophrénie paranoïde, c'est quand on entend des sons bizarres, on se sent ailleurs, on se sent hanté, on se sent persécuté. Vous entendez des voix bizarres, que leur liste fait ça. Leur monde est renversé, quoi.
Les dégâts ne sont pas que psychologiques, ils sont aussi physiques. Les consommateurs souffrent de douleurs musculaires insupportables et de plaies sur la peau. Yamoussa Bangoura, le coordinateur national du Sagette, estime que la criminalisation des consommateurs augmente sensiblement les risques pour leur santé. Pour lui, il faudrait plutôt les accompagner pour les aider et les soigner.
Les approches sont à revoir. Par exemple, une fois ils avaient pris des dispositions, celui qui sera pris avec la drogue couche, ce consommateur aura une peine de 4 ans, voire même 10 ans de prison. Donc ça, c'est des mesures dissuasives. Mais ces mesures dissuasives, au lieu de contribuer à freiner, cela a eu plutôt de l'impact négatif sur les consommateurs de drogue couche. Et au lieu de venir dans un centre de santé, non, ils préfèrent se cacher dans les ghettos ou se cacher dans les mains de leurs amis. Et donc, si cette personne n'est pas orientée dans un centre de santé, par exemple, et la mort va suivre. Au lieu que la tendance soit renversée, c'est-à-dire une diminution de la consommation de la drogue couche, on a eu plutôt un nombre élevé de décès dus à la consommation de la drogue couche, parce que ces personnes se cachent.
Mais il n'est pas évident de convaincre les consommateurs de se soigner. Pour le psychologue Alpha Oumardine Diallo, c'est là le rôle de l'entourage familial et amical.
Il y a des étapes clés et des leviers pour sortir du couche. C'est la reconnaissance d'abord de la dépendance. Pour moi, le consommateur de couche doit reconnaître qu'il souffre et qu'il a besoin de soins. Ça, c'est au niveau individuel d'abord, qu'il a besoin de soins. Parce que dès qu'il accepte, n'est-ce pas, de considérer qu'il est dépendant et il en souffre, il ne peut plus rester sans consommer le couche, cette prise de conscience-là, cette reconnaissance est une étape importante, souvent très difficile pour le consommateur. Et quand on passe cette étape-là, on peut commencer un processus d'accompagnement.
Ce processus d'accompagnement passera par des soins psychologiques et médicaux. Plus un consommateur sera pris tôt en charge, plus il aura de chances de sortir de son addiction et de se soigner.
Reportage de Tanguy Billan à Conakry. Professeur Samuel Traoré, on vous retrouve à Abidjan. Le couche, ça existe aussi en Côte d'Ivoire aujourd'hui?
Oui, Caroline, le couche existe en Côte d'Ivoire. Et vous avez des parmi les consommateurs de cannabis, dans les centres de réinsertion des enfants en conflit avec les lois, vous avez environ 80% qui sont consommateurs de couche. Mais il faut aller jusqu'à l'analyse de produits hein, pour donner des confirmations sur cette utilisation-là.
Quand on parle d'addictologie, de prise en charge, d'accompagnement dans votre contexte en Côte d'Ivoire, la plupart du temps, la prise en charge, elle vient de qui? Du patient ou c'est la famille qui accompagne la personne en difficulté et peut-être même des fois la force à consulter?
Alors, merci Caroline. Sur cette question, il y a encore des présenteurs culturels. Vous allez voir que la plupart du temps, ce sont les familles qui donnent comme des contraintes et des injonctions de soins à l'usager de drogue qui présente une addiction. Et les familles ont du mal à comprendre, en fait, qu'au centre de la prise en charge, c'est l'usager, lui, qui donne de certaines orientations et il est accompagné. Ça. Et le deuxième, les deuxièmes approches de consultation, vous allez voir que généralement c'est suite à des complications psychiatriques. Voilà, suite à des bouffées délirantes, comme ça a été dit tout à l'heure, ce qu'on appelle les pharmacopsychoses, qui sont induites par les consommations des drogues. Après la récupération de cet état-là, les sujets viennent soit librement ou toujours sous les recommandations ou l'insistance des familles. Voilà, mais de plus en plus, on commence à avoir à Abidjan, en Côte d'Ivoire, des consultations qui sont librement consenties par les usagers de drogue. Voilà.
Est-ce qu'il y a une compréhension de la maladie addiction où il y a toujours énormément de stigmatisation à l'encontre des usagers de drogue et de celles et ceux qui pourraient devenir les bénéficiaires de vos structures de santé?
Alors, il y a encore beaucoup de perceptions. Hein. Toujours, on sait aujourd'hui que les addictions sont une pathologie chronique du cerveau. Mmh. Le Programme national de tabac et des addictions en Côte d'Ivoire a beaucoup travaillé dans la sensibilisation dans ce sens, et le CILAD en Côte d'Ivoire aussi, de sorte à ce que les perceptions changent déjà au niveau des professionnels de soins, et au sein de la population, mais il y a encore beaucoup à faire. Il y a encore quand même du travail pour que ces personnes-là ne se sentent pas stigmatisées, parce que c'est l'un des freins aussi au recours à la consultation, c'est la question de la stigmatisation et la compréhension qu'il s'agit d'une maladie, effectivement.
Et justement, dans votre spécialité en Côte d'Ivoire, professeur Traoré, il y a une première qui se prépare dans les toutes prochaines semaines.
Oui, merci pour l'opportunité. Là, du 4 au 5 décembre 2025, la Société de psychiatrie de Côte d'Ivoire lance les premières journées ivoiriennes d'addictologie. Voilà, ça se fera à l'Institut national de santé publique pour éclairer un peu plus, pour donner des chiffres et pour que les acteurs du milieu des addictions puissent se parler et trouver des consensus. Et
on va noter ça, comme on dit dans nos tablettes. On vous redonnera la parole à ce moment-là, professeur Traoré, pour nous expliquer cette actualité de la lutte contre les addictions dans votre pays. Un grand merci à vous pour ces explications. Docteur Nicolas Bonnet, on parle d'addiction, de sevrage. À celles et ceux qui nous écoutent, est-ce qu'il peut y avoir des risques à se lancer seul dans un arrêt brutal de la consommation?
Il y a toujours des bénéfices à s'engager dans une démarche de réduction ou d'arrêt de sa consommation. Voilà, c'est toujours porteur, c'est toujours valorisant, c'est toujours engageant pour les consommateurs. Et d'ailleurs, c'est l'expérience même de tous les consommateurs. Il faut bien se dire aussi que tous les gens qui, à un moment donné, fréquentent des spécialistes de l'addictologie ont toujours, avant de les rencontrer, essayé d'eux-mêmes d'arrêter leur consommation de nombreuses fois. Donc les gens, en fait, se connaissent très bien déjà les effets des produits sur leur corps, les signes du sevrage, etc. Après l'arrêt brutal de la consommation, il est déconseillé pour deux produits, pour les opiacés et pour l'alcool, pour lequel il peut y avoir effectivement des risques importants, particulièrement pour l'alcool, où il peut y avoir vraiment même un risque de décès si le sevrage est trop brutal sans être accompagné. Donc là, du coup, effectivement, il faut prévoir un accompagnement. Mais aussi, non, en tout cas, voilà, le fait de se dire « je m'engage dans une démarche d'arrêt », il faut le faire. Et je rajouterai un point aussi, c'est que dans ces stratégies-là d'accompagnement, il y a quatre piliers distincts et on le voit bien avec le sujet du couche qui sont vraiment très importants. C'est la politique publique. Il faut une politique publique qui soit forte dans ces pays-là et dans tous les pays, et notamment de lutte contre les narcotrafics internationaux, parce que c'est aussi de cela dont il s'agit avec le couche. Il faut également une politique en termes de soins, d'accompagnement correctement faite, sanitaire, médico-social, avec des services comme celui qui a été proposé et exposé. Il faut une politique de prévention qui soit également du coup à destination du plus grand nombre, et de la pédagogie. Il faut qu'on apprenne du coup effectivement à respecter les usages et les usagers. Et il faut aussi une politique de réduction des risques qui permette effectivement aux consommateurs qui sont actifs de pouvoir également consommer dans les meilleures conditions possibles, sans infection, sans risque autre sanitaire ou sociaux ou de justice. Donc il faut aussi avoir une politique vraiment pragmatique en ce sens-là. Et un dernier point, ça me fait penser à une journée qui a eu lieu au niveau international tout récemment, c'est Support Don't Punish. Pour les usagers de drogue, il faut les soutenir et pas les punir. Il faut les accompagner vers le soin et vers la prévention.
À celles et ceux qui nous écoutent et qui s'inquiètent pour un proche, qu'est-ce que vous avez envie de dire? Qu'est-ce qu'on peut faire? Il nous reste 30 secondes.
Quand on a un proche qui est en situation de consommation ou de dépendance, d'abord il faut nommer les choses, il faut nommer ce qu'on voit, il faut dire ce qu'on voit et dire ce qu'on sait. Il faut vraiment éviter tout type de négation ou de déni. C'est ce qui porte souvent le plus préjudice possible à l'ensemble des relations. Et c'est ça ensuite, les consommateurs en général après en veulent en plus aux gens qui ne les ont pas orientés ou pas incités à s'engager. Donc il faut toujours le dire, toujours le faire, même si effectivement on se rend compte que certaines fois ça va créer des situations de tension, des situations un peu conflictuelles, mais il faut le dire. Deuxièmement, il faut toujours rester présent pour les gens. toujours et dire qu'on sera toujours là pour eux. La place sera toujours ouverte, la porte sera toujours ouverte. Il ne faut pas hésiter du coup que les consommateurs reviennent. Troisièmement, c'est une chose très importante, c'est ne pas faire à la place des autres. L'usager, il reste acteur de sa propre santé. Et il faut renforcer au contraire sa capacité à prendre soin de sa propre santé.
Merci beaucoup, docteur Nicolas Bonnet. C'était absolument limpide. On se quitte avec Distinct et French Montana, Ya Baba sur RFI.
Zendo darham zendo mashaki, oh la vie c'est pas facile. Oya baba ya sidi, oya baba ya sidi.
Sada toiri miya, aineni tiri ufiya, sabagra bedi dunya, ayada wad walidiya. Oya baba ya sidi, miktabi mashi bidi, darham abdulole, hadile miktubi.
More money, more problems. Pray for my enemies. Sat back, watch friends disappear. When he made it to the top and the money train stopped and his friends, they was never there. Rababa, do mashaki. Guys, I'll leave my job in smelly. Baskatlana, kehes dofi. Baskatlana, kehti rofi. Ya baba, ya sidi. Life is short like an EP. More money, more problems, ya habibi.
More money, more problems, ya habibi.
Zedu dirham, zedu mashaki. Oh, life is hard, sip a fast. Ya baba, ya sidi.
Ya baba, ya sidi.
Zedu dirham, zedu mashaki. Oh, life is sip a fast. Ya baba, ya sidi.
Priorité santé, c'est fini. Demain, nous allons parler des TIC, du syndrome de Gilles de la Tourette, mouvements sont répétitifs, incontrôlés. Comment vivre avec? Comment en réduire l'intensité? Vos témoignages, vos questions. Et à votre écoute, hein, comme chaque jour dans notre émission des spécialistes, on se donne rendez-vous à 9h10, temps universel. D'ici là, restez à l'écoute de RFI et surtout, portez-vous bien.
C'était Priorité Santé avec Suno Assurance et soyez couverts en cas de maladie, de perte ou de vol de bagages durant vos voyages.